10h45, c'est un plaisir de le retrouver. Philippe Quentin, bonjour.
Salut François.
On parlait un peu du Derby de Kentucky. Quand on parle de Derby, habituellement, c'est de la démolition. Là. On dirait que la course s'est démolie par elle-même à la fin.
Oui, ça a été toute une histoire hier au Derby du Kentucky. C'est une course historique. Et ce qui s'est produit hier, on n'a pas vu ça depuis la première course il y a 145 ans. Un cheval qui gagne la course et qui est disqualifié pour avoir commis de l'obstruction dans le dernier tournant. Ce cheval-là s'appelle Maximum Security. Alors, ça a causé un imbroglio monstre aux États-Unis. Aujourd'hui, on en parle abondamment. Il y a même un journaliste du Washington Post qui dit « Hey, ça rappelle un peu les Oscars de 2017. » Tu te souviens qu'on a annoncé que La La Land avait gagné le meilleur film, mais dans le fond, c'était Moonlight. Bon, c'est une situation différente. Ce n'est pas une erreur bête, c'est simplement une décision des juges qui s'est produite. Alors, on a jugé que le cheval qui menait la course s'est déplacé légèrement vers sa droite, brisant ainsi la ligne de course de ses pourchassants et que en raison de cette faute qu'il a commise, il devait être... Bon, il n'a pas été disqualifié, mais il a été placé 17e sur 19e, alors c'est tout comme... Et c'est intéressant, ce matin, on essaie de comprendre pourquoi le cheval s'est vraiment tassé comme ça vers la droite, puis il y a deux raisons qui sont évoquées. D'abord, la piste était mouillée, il a plu énormément. Alors, il a peut-être vu une flaque d'eau qui l'a un peu énervé, et ça le fait que c'est... qui se déplace, mais son jockey, lui...
J'ai de la misère avec ça.
Ouais, mais son jockey, lui, il dit ce qui s'est produit, il dit que c'est quand on est arrivé dans le dernier détour, puis avec le cri des là, t'es devant la tribune principale, puis ouais. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, il dit le bruit l'a vraiment énervé. Alors, bon, écoute, peu importe
ça,
ce qui est arrivé...
Ça, je crois plus la deuxième version, parce que c'est un jeune cheval, hein, il est fringant en plus. Là, alors,
exactement, puis les chevaux, on sait, ce sont des animaux qui sont nerveux, alors ça peut arriver. Maintenant... François, ce qui est important là, dans toute cette histoire-là, c'est que c'est une controverse. C'est pas une bonne controverse parce que, tu sais, c'est assez subtil ce qui s'est produit. Pour quelqu'un qui regarde une course par année, le Kentucky Derby, tu vois ça, tu te dis, écoute, est-ce qu'il a vraiment empêché l'autre cheval de réussir sa course? Il semblait tellement meilleur. Alors, c'est pas une bonne controverse et ça arrive à un moment terrible pour les courses parce que c'est une industrie qui va vraiment mal aux États-Unis. En Californie, à une piste très célèbre qui s'appelle Santa Anita, il y a 23 chevaux qui sont morts en course au cours des dernières semaines. Ça crée là-bas un enjeu important. Est-ce qu'on doit poursuivre ou non les courses de chevaux? D'ailleurs, il y a énormément de programmes de courses, de journées de courses qui ont été annulées à cette piste-là, pendant que les autorités essaient de comprendre ce qui s'est passé. Puis là, on en vient à un débat sur l'acceptabilité sociale des courses de chevaux. Il y a même des gens qui pensent qu'il pourrait y avoir éventuellement un référendum en Californie où on demanderait aux gens, êtes-vous pour ou contre la poursuite des courses de chevaux? Alors, on le sait, dans les années 20, 30, 40, même ici au Québec, les courses de chevaux, c'était majeur. Moi, des fois, dans des recherches que je fais pour des livres ou quoi que ce soit, je tombe sur les vieilles pages des journaux de l'époque des années 20, 30, La Patrie, La Presse, Le Petit Journal. Puis l'impact qu'on accordait au Québec aux courses de chevaux à cette époque-là, c'était énorme. Puis on sait qu'aujourd'hui, on en parle à peu près plus. Mais là, aux États-Unis, il y a un phénomène aussi, ça a diminué l'intérêt pour les courses. Mais là, avec tout ce qui se passe, avec ces morts de plusieurs chevaux au cours des dernières semaines. Vraiment, c'est une industrie qui est sur la brèche. Là.
Bon, parlons de hockey maintenant avec mes Blue Jackets qui sont dans l'eau jaude. Là. Ils ont la misère.
Oui, moi aussi, je les voyais très gros, les Blue Jackets, depuis le début des séries. Puis quand ils ont éliminé aussi rapidement le Lightning de Tampa Bay, je trouvais qu'ils étaient partis pour la gloire. Pour moi, ils devenaient les favoris pour remporter la Coupe Stanley. Mais hier, c'était un match crucial. Et chapeau aux Bruins de Boston qui ont joué encore une fois un match formidable. On dit souvent, les entraîneurs, ce qu'ils souhaitent, c'est que ça soit dur de jouer contre leur équipe. Puis je pense que jouer contre les Bruins de Boston, c'est pas mal difficile. On a vu hier énormément de résilience. Ils abandonnent pas, même quand les Blue Jackets ont fait un retour en troisième période pour égaler la marque à 3-3, un retour assez spectaculaire, très rapide, un peu inattendu. On a vu les Bruins revenir, aller marquer le but victorieux. Alors, c'est une équipe, franchement, qui a énormément de panache. Se conduit avec beaucoup, beaucoup de confiance. Mais pour les Blue Jackets, là, c'est tout le risque qu'ils ont pris qui va être remis en cause, c'est-à-dire d'aller à la date limite de transaction, aller chercher deux joueurs, entre guillemets, de location, Matt Duchene et Ryan Zingle. Quand tu sais que dans ton équipe, il y en a déjà deux joueurs presque de location, Panarin et Bobrovsky, parce que ces deux vedettes-là ont déjà indiqué qu'elles veulent tester le marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Alors, ils ont pris un risque en disant, hey, on y va à fond, on veut gagné la Coupe Stanley. Mais si tu te fais éliminer en deuxième ronde, à mon avis, c'est pas suffisant pour justifier ce pari-là. Si tu te rends en demi-finale, là, on commence à parler. Mais si tu perds en deuxième ronde, oups, ça remet beaucoup de questions sur la table.
Est-ce que ça pourrait être dangereux pour Tortorella?
Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, Tortorella va sortir de là un peu auréolé et retrouver un peu l'espèce de réputation qui était la sienne il y a plusieurs années quand il était un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale. Pour une raison très simple, c'est qu'il a quand même réussi à faire l'unité au sein de ce club-là avec plusieurs éléments qui venaient d'arriver à la date limite des transactions. Donc, beaucoup de changements dans la composition de l'équipe. Puis on sait que les joueurs qu'ils ont acquis, les Blue Jackets, un gars comme Matt Duchene, par exemple, ça, c'est pas comme accueillir un joueur de quatrième trio, tu sais, parce que il prend une place tellement importante immédiatement dans l'équipe que ça peut bousculer un peu les autres. À Montréal, par exemple, quand Marc Bergevin accueille à la date limite des transactions Jordan Wheel, qui va jouer sur le quatrième trio, ou Nate Thompson, tu sais, ça change pas l'ADN de l'équipe. Par contre, quand tu vas chercher un joueur vedette qui, lui, s'attend à avoir ses minutes de jeu, s'attend à jouer sur l'avantage numérique, que ça change tout. Alors, on a vu, ça a pris d'ailleurs un petit peu de temps pour les Blue Jackets de trouver une cohésion. Mais une fois qu'ils l'ont trouvé, ça a été assez fantastique. Mais là, ils se butent aux Bruins. Alors, je ne pense pas que lui va en payer le prix. Par contre, il y a peut-être un joueur comme Panarin dont la cote est extrêmement élevée. Hier, ça a été un petit peu plus difficile. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se produire avec ça. Mais écoute, les séries, c'est 3-2, mais il faut en gagner 4. Puis dans tous les sports, c'est toujours le dernier match qui est le plus difficile à gagner.
Oui, effectivement. Mais là, le fait qu'on s'en aille à Columbus, est-ce que ça peut... brouiller les cartes un petit peu pour les Bruins.
Clairement, ça va être très dur de gagner pour les Bruins à Columbus. On le sait, ils ont un public qui est extrêmement enthousiaste à Columbus avec le canon qui tombe quand ils marquent leur but. Je ne serais pas du tout étonné qu'on voit un match 7 dans cette série-là.
Bon, parle-nous de la FA maintenant.
En fait, je vais te parler du match de tennis aujourd'hui entre Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. C'est l'Omnium, le tournoi de Madrid qui commence sur terre battue. Et le tirage au sort a fait en sorte que les deux espoirs canadiens, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, se rencontrent. Le match a lieu en début d'après-midi, heure de Montréal. Alors, c'est quand même assez formidable de voir ces deux jeunes joueurs qui n'ont pas 20 ans, qui sont rendus parmi les 30 meilleurs au monde, s'affronter en première ronde. La mauvaise nouvelle, c'est que le tirage fait en sorte que le gagnant de cette rencontre-là va affronter au deuxième tour Raphaël Nadal. Bon, alors Raphaël Nadal sur terre battue en Espagne, bonne chance. Mais ça fait partie de la formation. Ça sera une expérience absolument extraordinaire pour celui des deux qui l'emportera aujourd'hui de disputer ce match-là contre Nadal. Ce sera un événement très, très spécial dans sa carrière. Mais c'est un peu dommage d'un certain côté de voir que les deux Canadiens s'affrontent au premier tour, mais c'est le jeu des tirages au sort. Et puis, on sait que Félix Auger-Aliassime, maintenant, il est dans les 30 meilleurs au monde, mais quand le classement pour ce tournoi-là a été effectué, il n'avait pas encore atteint ce niveau-là dans le classement. Alors, donc, il ne pouvait pas profiter d'un laissez-passer au premier tour. Mais ça devrait être tout un match. Puis moi, je donne un avantage à Félix Auger-Aliassime parce que je regarde aller Shapovalov cette saison, puis je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu inquiétantes. D'abord, il a rechangé d'entraîneur. Tu te souviens qu'il a commencé chez les pros avec Martin Laurendeau. Et puis, là, finalement, il a décidé d'aller dans une autre direction. Il a embauché un autre entraîneur, un autre Canadien, un gars de Toronto. Et là, il l'a laissé aller aussi. Il est donc avec un troisième entraîneur en à peu près un an. Et ça, je trouve que ça commence à manquer de stabilité. Je comprends que sa mère, qui est une pro de tennis, puis qui enseigne le tennis, est toujours là, puis assure la continuité dans l'encadrement. Mais il reste pas moins que quand tu changes d'entraîneur comme ça, à mon avis, ça devient un petit peu problématique.
Oui, puis en plus, il y a un problème d'arythmie cardiaque. Jusqu'où ça peut lui nuire, ça,
il y a beaucoup Félix qui a des problèmes aussi, mais moi, je pense que tous ces problèmes-là physiques des jeunes joueurs, ils sont aujourd'hui tellement bien encadrés qu'on réussit à prendre le problème assez tôt et puis à faire en sorte qu'il puisse développer sa carrière de son mieux.
Bon, et parle-nous de l'Impact et des sièges vides.
Oui, bien, l'Impact, c'est une belle histoire hein, depuis le début de l'année parce qu'ils ont commencé avec, quoi, 6 matchs à l'étranger. Et puis, c'était potentiellement un piège immense, ces 6 matchs à l'étranger. S'il avait fallu qu'ils les perdent les 6 ou qu'ils ne réussissent qu'à arracher un ou deux verdicts nuls, ça aurait placé l'équipe dans une position extrêmement désavantageuse avant même qu'on arrive là, véritablement au meilleur du printemps et éventuellement l'été. Alors, l'Impact sur le plan sportif, c'est vraiment bien débrouillé. Je pense que son rendement, le rendement du club dans ces 6 rencontres-là a été au-delà des espérances. Par la suite, ça s'est bien fait aussi à Montréal. Et donc, ça va bien. Défaite hier, bien sûr, au Stade Saputo. Un match qui n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes. Mais il en reste pas moins que je regarde sur le site officiel de Major League Soccer les assistances au match de l'Impact. Et puis, on ne réussit pas à remplir le Stade Saputo. Le stade qui a été reconfiguré, François, cette année. On a fait passer de 20 800 sièges à 19 600, donc on a retiré 1 200 sièges. Pourquoi? Bon, c'est dans le renouvellement de la structure de prix, puis on a voulu faire une reconfiguration, là, peu importe les raisons techniques. Mais il en reste pas moins que hier, il n'y avait pas tout à fait 17 000 personnes. Ça n'a pas été trop mal au match d'ouverture. Le match numéro 2, ça a été plus dur. Alors, il y a encore un gros défi pour l'Impact, pour aller chercher ses partisans.
Philippe Quentin, merci beaucoup, encore une fois, d'avoir participé à l'émission ce matin.